À la découverte de la richesse botanique de notre région.
Nuances de vert, votre magazine à la découverte de la nature. Pour passer un après-midi, un moment de détente dans un jardin, chaque semaine, présenté par Ophélie.
Chaque mardi de 11h30 à 12h sur Radio Alpementiel 106.3 FM.
Nuances de vert,
le magazine qui vous fera visiter pendant toute la saison estivale les parcs et jardins qui vous invitent à la balade.
Bonjour et bienvenue dans votre magazine Nuances de vert sur l'antenne de Radio Alpementiel 106.3 FM. Retrouvons aujourd'hui Sandrine Gouffier pour les extérieurs du prieuré de Vivoin et Edith Boulaine pour les jardins de l'abbaye de Tuffé. Escale maintenant au prieuré de Vivoin pour ce magazine Nuances de vert. Avec nous Sandrine Gouffier, responsable du prieuré. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Alors, quelques mots pour commencer sur le prieuré, si vous voulez bien.
Oui, alors le prieuré de Vivoin est situé donc sur la commune de Vivoin, donc entre Le Mans et Alençon. Donc c'est un bâtiment qui appartient au conseil départemental de la Sarthe, donc un prieuré bénédictin qui a été fondé au XIe siècle par des moines venant de l'abbaye de Marmoutier, qui était situé en Touraine. Donc ce bâtiment, comme beaucoup de bâtiments du genre, a une histoire toute particulière. Il a connu des modifications architecturales, donc entre le roman et la Renaissance, il y a plein de bâtiments qui ont été transformés. On a presque tous les styles ici. Et puis il a surtout une histoire contemporaine assez extraordinaire. Après avoir été vendu en bien national, donc en 1791, il a été partagé en plusieurs lots par différents propriétaires. Et dans les années vraiment vers 1910-1920, il est dans un état assez avancé de délabrement. Il est même menacé d'être démoli. Et donc dans les années 60, je fais un saut un peu dans l'histoire, 40 ans après, les habitants, l'instituteur et le maire du village décident de sauver le bâtiment. Donc il a été sauvé de la démolition par les habitants. Qui ont très tôt essayé de déblayer tous les gravats qui existaient, parce qu'il y a eu une partie qui s'était effondrée. Et puis ils ont aussi, bon an mal an, proposé des activités culturelles. Et c'est en 1975 que du coup ils se retournent vers le conseil général à l'époque, leur demandant donc un peu d'aide, parce qu'ils ne pouvaient pas faire face à toutes les campagnes de restauration. Et le département donc décide de le racheter au titre du franc symbolique. Voilà, pour la petite histoire. Après, ici, c'est un centre culturel dans lequel on propose tas de sortes d'activités. Donc, pour les scolaires, des ateliers autour du patrimoine, des ateliers en lien avec les expositions. On a aussi des stages de formation artistique. Il y en aura un très prochainement autour du théâtre. Et puis, on a aussi, et là, on vient au titre de l'émission, tout un parc qui fait à peu près 3,5 hectares. Qui a été exploité de façon très différente qu'il l'est actuellement par les moines. On a très peu d'indications sur la façon dont il était géré. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, le bâtiment était enclos, c'est-à-dire que les moines vivent la clôture monastique, ils sont enfermés, et que bien souvent, ils vivent en autarcie, ils sont capables de produire sur site tous leurs légumes. On connaît les moines pour leur talent d'herboriste. Il y a souvent un jardin des simples avec des herbes médicinales, des aromatiques, mais il y avait aussi un verger. On sait qu'ils peuvent produire aussi du cidre, enfin on est proche de la Normandie, donc ça on le sait bien. Mais vraiment, sur tous ces espaces, quel espace était destiné à ça? Est-ce que c'était verger? Tout ça, on ne sait pas vraiment. Donc le choix qu'on a fait ici, on s'est quand même pendant plusieurs années focalisé sur la restauration du bâtiment, donc les pierres, le dur, et on a un peu oublié tout l'espace qu'on avait, un joli espace de 3,5 hectares avec une mare qui a été fermée au public pendant très longtemps. Elle a été réouverte en 2010. Du coup, un verger qui lui avait été planté il y a à peu près une vingtaine d'années, mais qui faisait pas forcément l'objet d'une taille particulière, les arbres n'étaient pas forcément entretenus. Et puis tout un espace qui lui était tondu version un peu green de golf. Bon, c'était des choix faits à l'époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur un entretien de ces espaces qui est tout à fait différent, puisqu'on veut préserver chaque espace de façon à ce que la biodiversité du lieu soit du coup favorisée. Alors quand on dit ça, c'est des grands mots tout ça, mais du coup on a différents espaces où par exemple on décide de faucher à une certaine période de l'année. Donc si on laisse des grandes herbes pousser, c'est pas parce qu'on a négligé l'entretien des espaces, c'est surtout pour laisser les insectes, les pollinisateurs se reproduire. Voilà, on sait que les pollinisateurs, ce sont les papillons, ce sont les abeilles, elles sont précieuses. C'est elles qui permettent d'avoir des beaux fruits, hein, dans nos, par exemple, dans nos vergers ou avoir dans nos jardins, du coup, des beaux légumes. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y a certains endroits aussi où on ne fauche pas. On décide d'enlever, du coup, le surplus d'herbe à une certaine époque. C'est aussi volontaire. Voilà. Donc à l'intérieur de ces espaces aussi, il y a différents lieux qui permettent de pratiquer des techniques donc spécifiques d'entretien des haies, par exemple. On a ici des haies plessées. Donc c'est une pratique qui était exercée aussi depuis très longtemps au Moyen-Âge, qui donne la possibilité d'enclore avec un tressage. Donc ce sont du bois, du saule souvent qui est du coup entrelacé, et qui permet des barrières naturelles, mais ça favorise aussi la présence d'insectes parce qu'on laisse pousser les fleurs du saule, etc., etc. On a aussi une haie têtard, donc avec les têtards. Donc les arbres têtards sont pareils. Une technique qui a été pratiquée pendant très longtemps dans nos campagnes. Hein. Les arbres têtards sont ces arbres qui ont une drôle de trogne, on les appelle les trognes aussi, qui sont tout boursouflés, et qui, en fin de compte, permettait d'avoir du bois de chauffage. Donc là, volontairement aussi, nous, on avait une haie de charme qu'on a complètement étêtée. Quand je parle d'étêtée, ça veut dire qu'on a vraiment coupé l'arbre et on a laissé le tronc à une hauteur de à peu près, on va dire, 2 mètres. Donc c'était assez spectaculaire pour que des rejets existent et puissent effectivement reprendre cette technique, quoi. Voilà. Donc ce lieu a pour principe aussi du coup d'être une espèce d'illustration des pratiques qu'on a un peu perdu de vue, mais qui existent toujours et qui sont importantes. Voilà. Donc c'est une sorte de un jardin ouvert quoi sur ces pratiques. Après on a un espace aussi qui est plus là du coup didactique et pédagogique, une mare qui était en fin de compte l'ancien vivier des moines. Et là on en a fait un petit sentier d'interprétation. On a différents pôles de présentation du site avec des fiches où on peut découvrir les différents poissons, les différentes plantes, etc. Donc cet espace-là, il est beaucoup utilisé par les scolaires parce qu'effectivement, dans ces mares, on peut voir tout un écosystème intéressant, des tritons palmés, des petits insectes, qui sont assez communs, mais du coup qu'on voit pas tout le temps partout à l'état naturel. Donc voilà ça pour cet espace. Le verger, alors lui, le verger, du coup, lui, il est plutôt géré de façon épisodique. On récupère un certain nombre de fruits pour en faire, nous, en interne, du jus de pomme. Donc ça, on travaille encore sur cet aspect-là. Et puis, la réalisation contemporaine, et qui est un peu en décalage par rapport à l'histoire de ces bâtiments monastiques, c'est le jardin textile avec ses plantes tinctoriales et ses plantes à fibres. Donc, des plantes tinctoriales sont des plantes qui donnent des couleurs. Donc là, on a 9 carrés différents, qui sont des petits carrés plissés, et on trouve différentes plantes et fleurs qui permettent de donner des couleurs. Donc, tous les carrés ont des couleurs particulières. Et donc, dans les plantes qu'on peut retrouver, on a par exemple, dans celles qui sont assez connues, c'est le cosmos, hein, c'est une fleur ornementale qu'on trouve dans nos jardins. Donc avec par exemple le cosmos, si on récupère les pétales, on a une très belle couleur orangée. Après on a des plantes qu'on trouve dans nos fossés, par exemple la tanaisie qui est une odeur assez forte, qui là encore peut permettre, avec ses fleurs, d'avoir des couleurs très très belles. Donc ça c'est aussi un bel outil, puis c'est quelque chose qui est assez curieux et qui est intéressant parce que des plantes, on en a partout à l'état sauvage, elles ont toutes des vertus particulières, qu'elles soient médicinales, mais aussi il y a tout cet aspect de teinture qui est très important, hein. On connaît dans les plus connus et on en a aussi dans le jardin, de la garance, donc qui permet à la garance qui donne la couleur rouge, hein, qui permettait de teindre par exemple du coup les habits, les uniformes hein, de nos soldats de la guerre de 14-18. Donc il y a toute chose, hein, pendant tout le temps on a utilisé les plantes pour les utiliser à des fins textiles mais autres. Donc il y a aussi dans ce jardin cette ouverture-là, parce qu'on a des petites fiches aussi qu'on distribue au public sur demande, parce que tout le monde ne s'intéresse pas forcément aux plantes, hein, qui explique voilà, d'une part, quelle partie de la plante on utilise, hein, si c'est ses racines, si c'est ses feuilles, si c'est du coup ses pétales, et ce que l'usage qu'on a pu en faire donc depuis très longtemps, puisque on connaît, les Aztèques utilisaient par exemple la fleur de cosmos pour utiliser, teindre leur tissu, mais en faire autre chose aussi. Enfin, les encres végétales sont utilisées aussi dans certains livres d'enluminure. Enfin, il y a toutes sortes d'usages, quoi. Donc c'est assez intéressant, c'est passionnant même. Hein.
Oui, voilà. C'est passionnant également de vous écouter.
Ouais, il y a plein de choses à dire. Après, sur cet espace, ce qui est intéressant à dire, c'est qu'il est en accès libre. Hein. Donc pour les gens qui ont envie de se balader au prieuré, déjà, bah, ils peuvent aller dans le parc, venir avec leur pique-nique, on a quelques tables. Et puis, se faire cette petite balade, donc, et déambuler là dans nos espaces, on a des petits chemins qui sont tendus, qui vous permettent comme ça d'accéder, donc, de passer par le verger, d'aller voir, alors on a une jachère de fleurs sauvages hein, qui n'a pas bien marché cette année, d'aller jusque dans l'espace de la petite mare, donc là c'est un espace tout tranquille, il n'y a pas un bruit, c'est agréable, et puis revenir du côté du jardin, passer évidemment dans le cloître du prieuré, observer ce magnifique endroit, découvrir qu'il a perdu une partie de ses bâtiments, rentrer à l'intérieur dans le cadre des expositions qui sont proposées. Alors là, en revanche, c'est pas ouvert tout le temps, mais c'est ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Donc voilà, il y a la possibilité comme ça de passer un petit moment ici, ne serait-ce qu'une heure, deux heures, et de profiter de ces beaux endroits. Et évidemment, il y a aussi le village de Vivoin quand même, parce que c'est aussi un joli village avec un patrimoine aussi intéressant. Donc qui est situé aussi en bord de Sarthe. Donc voilà quoi, c'est... Faut passer, quoi. Ça vaut vraiment le détour, quoi. Après, ça reste des petits villages comme ça, hein, dans nos campagnes sartoises, qui sont pas bien connus, mais qui recèlent plein de secrets, quoi.
Tout à fait. Bien, écoutez, vous avez tout dit pour nos auditeurs. Je vais juste terminer en vous demandant un contact, si vous voulez bien, le site internet du prieuré ou un numéro de téléphone, comme vous le souhaitez, pour que nos auditeurs qui désirent avoir plus de renseignements puissent vous contacter directement.
Oui, alors donc du coup, nous, on a un site internet, c'est prieuredevivoin.com, où là, on fait le déroulé de tout ce qui se passe. On a un compte Facebook aussi, donc là, c'est plus de l'actu du jour. Et un numéro de téléphone, le 02 43 97 04 36.
Merci. Eh bien, écoutez, Sandrine, c'était un plaisir de vous avoir sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles. On vous souhaite une très bonne continuation et on vous dit à bientôt. Merci, au revoir.
Au revoir.
Dans ce magazine Nuances de Vert, nous retrouvons Edith Boulen pour les jardins de l'abbaye des Tuffets. Bonjour Madame Boulen.
Bonjour.
Alors, si vous voulez bien, quelques mots tout d'abord sur cette abbaye.
Eh bien, c'est une abbaye que tout le monde avait oubliée. Personne à Tuffets ne pensait même qu'il y avait là une abbaye. On pensait qu'il y avait d'une part une ferme et d'autre part à côté une maison bourgeoise. Une grosse maison bourgeoise. Et c'est donc assez récemment, en 2004, qu'à la faveur de certaines recherches, quelqu'un s'est avisé que dans les archives de l'abbaye Saint-Vincent du Mans, on parlait d'un prieuré de Tuffets. Et cette personne, qui est un étudiant, je crois, avait donc essayé de retrouver cette abbaye qui était disparue. Donc l'abbaye avait été fondée, maintenant on en sait beaucoup plus sur elle, puisque évidemment il a fallu rechercher qui était cette belle endormie. L'abbaye a été fondée au 7e siècle par une dame, c'est une abbaye de Monial, une dame qui s'appelle Dame Lopin. Donc là on a quelques éléments. Ensuite, elle a abrité aussi des moines. Et ensuite, et là c'était à partir du XIIIe siècle, elle a été rattachée à l'abbaye Saint-Vincent du Mans par un don. Et elle est donc devenue prieuré, puisque un prieuré dépend d'une abbaye. Voilà. Et elle a continué sa vie jusque un peu avant la Révolution, comme toutes les abbayes tous les lieux d'église et de culte. Et puis, là, elle a eu beaucoup de modifications. Elle a fait partie de grands mouvements de reconstruction de la réforme dite mauriste au XVIIIe siècle, enfin fin XVIIe, début XVIIIe, où on a beaucoup reconstruit tous les monuments religieux dépendant des mauristes, qui est donc des bénédictins, hein, qui s'était dit qu'il était grand temps peut-être de réformer leur ordre. Et petit à petit, elle a continué son bonhomme de chemin. Elle est devenue, après la Révolution, une faïencerie. Donc elle a encore eu toute une histoire. Et puis, de résidence secondaire. Et c'est là qu'elle était tombée dans l'oubli. Voilà un petit peu pour son histoire.
Alors, rentrons donc, nous, dans ces jardins pour ce magazine Nuances de Vert. Alors, quelle est leur histoire? Quel est leur principe? Comment ils se visitent? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Oui, alors, quand nous avons... c'est une association, donc, qui gère ce lieu. Et lorsque nous avons découvert cette abbaye, redécouvert, et bien sûr, dans un premier temps, il a fallu sauver ce qui pouvait être sauvé des bâtiments, d'une part. Et puis, il y avait là un drôle de jardin qui était en pelouse avec quelques éléments de buissons assez jolis. Un parc où la nature avait un petit peu gagné sur le reste des jardins. Il restait quelques éléments de buis. Donc on sentait qu'il y avait eu des jardins, on sentait qu'il y avait eu à certains moments des structures dans ces jardins, mais on ne voyait plus du tout lesquelles. Donc la tentation était grande de reconstruire ces jardins suivant les seuls plans dont nous disposions, qui étaient donc les jardins dits du Monasticon, c'est-à-dire les plans des mauristes, donc du XVIIIe. Mais nous avons résisté à la tentation et nous avons préféré évoquer à travers ces jardins peut-être les différents moments de l'abbaye ou du prieuré, donc suivant les cas, et les différents peut-être moments où entre l'homme et la nature et donc les jardins se sont tissés des liens qui étaient peut-être différents. Je vais m'expliquer parce que ça peut être un petit peu abscon. Nous appelons abbaye Notre-Dame de Tuffets. Donc il était normal de dédier un jardin ou des plantes à Notre-Dame. Nous sommes partis de cette idée-là. Ensuite, ce jardin a évolué au fil des siècles. Au Moyen Âge, il a dû être un jardin d'abbaye avec son jardin d'herbe, son jardin pour avoir des légumes. Il a pu être verger cimetière, hein, ce qui était souvent le cas dans les abbayes. Il a ensuite, au XIXe siècle, il a été sans doute une sorte de salon. Hein, on faisait à ce moment-là, on s'est mis à sortir un petit peu un mobilier de jardin et à se tenir au jardin. Il y a un sous-bois qui peut aussi nous raconter des histoires un petit peu plus légendaires. Et puis, à Tuffé, il y a aussi une légende et même un monstre qui est la velue. Et donc, qui représente la nature inquiétante, la nature qui fait peur, la nature qui crée des inondations, des incendies. Et on s'est dit, bah tiens, on va peut-être partir de là. Et donc, nous avons dans des jardins secrets, à la fois des jardins qui sont traités, et là, c'est le Clos de Marie, notamment, sur le thème d'une nature généreuse, douce, et au contraire, un morceau de jardin que nous avons traité sur le thème d'une nature très, très inquiétante, avec des arbres bizarres, avec des couleurs et des noms, comme des tisons de Satan ou des barbes de bouc, et où là, on va représenter cette nature inquiétante. Et entre les deux, évidemment, nous avons mis un jardin de moine qui est un herbularius, donc avec des simples et des jardins, le jardin qui guérit. Et nous avons ainsi décliné un certain nombre de thèmes un peu partout dans le jardin, ce qui fait que le promeneur va d'un lieu à un autre en changeant vraiment d'atmosphère à chaque fois. Évidemment, il fallait quand même rendre hommage aux moristes. Alors, il y a une partie qui va être une partie très ordonnée, que nous avons appelée la promenade du prieur, qui, elle, est faite de charme et d'iftaillés, c'est évident. Mais, comme nous avons envie aussi de nous amuser un petit peu, bien, nous avons créé un mur de la tentation pour que notre prieur ait quand même quelques envies d'échapper à ses méditations, etc. Donc voilà, ce jardin, c'est une promenade à la fois à travers les siècles, mais surtout à travers les rythmes, à travers les relations qu'on peut avoir avec la nature.
Alors c'est très intéressant donc de vous écouter. Est-ce que vous avez des variétés de plantes qui caractérisent ce jardin que vous voulez nous citer?
Alors beaucoup de plantes sont choisies en fonction de leur nom parce que nous avons décidé de jouer aussi avec les noms des plantes. On ne peut pas toujours être trop sérieux et de mélanger les styles. Par exemple, vous allez trouver une plante très inquiétante, qui est la brionne, le navet du diable, entre un rosier qui s'appelle peut-être Pionze et une clématite qui s'appelle Jean-Paul II. Il y avait aussi, et ça nous y tenons beaucoup, quelques arbres qui nous paraissaient beaux, intéressants, anciens, et qui sont tellement, sans doute des témoignages de la vogue de l'exotisme aussi, ou des beaux arbres des parcs fin 19e. Et cela, nous veillons amoureusement sur eux. Un très très vieux robinier pseudo-acacia, des mélèzes, des catalpas, des ginkgos, et ceux-là, évidemment, vont être la partie un peu bizarre, un peu exotique. Et autrement, évidemment, nous étiquetons toutes nos plantes de façon, c'est un jardin botanique, hein. Donc toutes les plantes sont étiquetées avec leur nom de famille, leur nom latin, leur nom français, et quand nous avons la place, même leurs usages. J'emploierais bien un grand mot en disant qu'à terme, nous aimerions avoir un jardin qu'on appelle ethnobotanique, c'est-à-dire qui raconte aussi l'histoire des relations qu'on a avec les plantes et des usages qu'on a pu en faire. Et puis évidemment, nous mettons en avant des variétés de plantes. Nous faisons cohabiter surtout à la fois des plantes horticoles et des plantes dites sauvages qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir dans les jardins, mais que nous réhabilitons. Parce qu'elles ont des propriétés, parce qu'elles ont été cultivées elles-mêmes longtemps, ou parce qu'elles ont des propriétés médicinales, par exemple, ou tinctoriales, qui peuvent être intéressantes.
Alors, quand est-ce qu'ils se visitent, ces jardins?
Alors, ils se visitent de plus en plus souvent. Et, ils sont ouverts, hors saison, ils sont ouverts du jeudi au dimanche, donc le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et en saison, c'est-à-dire d'avril à octobre, ils sont ouverts tous les jours.
Est-ce qu'il y a un tarif de visite?
Pas du tout. Nous tenons pour l'instant absolument à garder ces jardins ouverts à tous. D'une part parce que juste à côté, il y a aussi une maison de retraite et qu'on est ravis de voir que les résidents de la maison de retraite peuvent venir en fauteuil roulant, bien sûr, prendre leur petit goûter dans nos jardins. On tient à ce que les habitants de Tuffet puissent venir lorsqu'ils le veulent. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de tarif. Évidemment, on peut toujours encourager les visiteurs à nous faire un petit don, hein, pour nous aider. Mais nous tenons absolument à ce que, pour l'instant, nous gardions la gratuité.
Parfait. Je vais tout simplement terminer par un contact, si vous voulez bien, pour nos auditeurs. Un site internet ou...
Alors, le site internet, c'est www.abi, donc A de B A Y E, tiret Tuffet sans E, donc T sans E, donc TU2FE.org. Le téléphone, c'est le 06 41 82 50 93. Et le mail, amis, au pluriel, A-M-I-S, puisque c'est le nom de l'association, point A-B-I, A-B-A-Y-E, point TUF, T-U-2-F-E, @orange.fr.
Merci. Eh bien, écoutez, Madame Boulen, c'était un plaisir de vous avoir sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à bientôt.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Votre magazine Nuance de Vert est terminé pour aujourd'hui. Passez une excellente journée sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles, 106.3 FM.